libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. La politique logicielle libre de Fleury-les-Aubrais, c'est le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme un mois de décryptualité et aussi le livre Une expérience libre. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio diffuse désormais également en DAB+, en Ile-de-France, c'est la radio numérique terrestre. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je ne suis pas Frédéric Couchet, délégué général de l'April, mais Étienne Gonu, en charge des affaires publiques pour l'association. Si vous êtes une auditrice ou un auditeur régulier, ce changement de voix vous aura peut-être étonné. Rassurez-vous, Frédéric va bien, et vous le retrouverez dès la semaine prochaine. L'objectif est simplement de se répartir la charge et que Libre à vous soit aussi peu dépendant que possible d'une unique personne. Une pratique de pérennisation qui vaut aussi bien pour un projet logiciel que pour une émission de radio. Le site web de l'April est april.org, A-P-R-I-L. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. Et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Nous sommes le 31 mars 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Je précise que, comme les deux précédentes, l'émission est diffusée dans des conditions exceptionnelles suite au confinement de la population. Toutes les personnes qui participent à l'émission sont chez elles. Nous diffusions en direct depuis Saint-Denis, Clamart, Fleury-les-Aubrais et Verbania en Italie. D'un point de vue technique, nous utilisons Mumble, un logiciel libre de conférence audio. Nous espérons que tout se passera bien et je vous prie de nous excuser par avance si les problèmes techniques se produisent. Problèmes techniques ou problèmes humains, il s'agit après tout de mon baptême du feu. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio, causecommune.fm, et cliquez sur chat. Et retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission, Libre à vous. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Voici le programme de cette émission. Nous commencerons par la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture ». Marie-Odile Morandi reviendra sur un mois de décryptualité. D'ici 10-15 minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur la politique logicielle libre de Fleury-les-Aubrais, avec William Gonzalez, délégué à la protection des données de la ville. En fin d'émission, nous poursuivrons toujours avec William Gonzalez, avec qui nous échangerons sur son livre « Une expérience libre ». À la réalisation de l'émission, William de Cause Commune. Tout de suite, place au premier sujet. Nous allons donc commencer par la chronique de Marie-Odile, animatrice du groupe Transcription et administratrice de l'April, qui aujourd'hui nous propose son analyse de l'évolution des sujets du décryptualité de ce dernier mois. Elle nous précisera ce qu'est d'ailleurs ce décryptualité. Je précise aussi que Marie-Odile vit et nous parle depuis l'Italie, où l'intensité de la crise sanitaire, et je ne fais là aucun commentaire sur la gestion de cette crise d'un côté ou de l'autre, mais c'est donc cette crise sanitaire est en amont un peu de ce qu'on vit en France. Et donc ça donne aussi une valeur particulière à la lecture qu'elle va pouvoir nous apporter. Donc bonjour Marie-Odile et je vais te laisser la parole.
Bonjour à tous. En cette période inédite que nous vivons, je souhaitais parler de l'évolution des thèmes traités dans chacun des décryptualités depuis plus de un mois, c'est-à-dire depuis l'édition du 17 février 2020. Qu'est-ce que décryptualité ? Depuis le début de l'année 2017, un petit groupe de membres de l'April se réunit chaque semaine. Il y a le noyau dur avec Luc, Manu et Magali, et au gré des semaines viennent s'ajouter Nico et Nolwenn, ainsi que d'autres personnes. Les sujets concernant l'actualité informatique sont commentés de façon simple et accessible à toutes et tous, sans prétention, mais les choses sont dites. Chaque décryptualité commence par la revue de presse dont les articles sont choisis par Manu. Quelques articles principaux sont cités, accompagnés d'un court commentaire. Je rappelle que chacun d'entre nous peut envoyer à Manu, par divers canaux, les articles qu'il estime dignes de faire partie de cette revue de presse hebdomadaire. La discussion s'articule ensuite autour du sujet choisi par les intervenants. L'ensemble dure une quinzaine de minutes. Chaque décryptualité est transcrit et publié sur le site de l'April. Le 17 février 2020, le sujet était « ce que l'affaire Griveaux rappelle sur les enjeux de la vie privée. Évidemment, le jeu de mots était facile et personne ne s'en est privé. Ce soir, on va parler de choses grivoises. Chacun d'entre nous se souvient de cette affaire. Sur un site internet, un artiste russe a publié des documents pour montrer la soi-disant dualité qu'il y a entre le discours politique moralisateur et la vie privée de certains personnages politiques. Le député Griveaux avait envoyé à une jeune femme des vidéos intimes qui ont fuité. Les noms des protagonistes ont été très clairement affichés, divulgués. Divers politiques ont réagi en demandant la levée de l'anonymat sur Internet, thème récurrent pour certains, alors qu'il s'agit là d'abus de confiance et de divulgation de contenu pornographique condamné par la loi. Occasion de rappeler que notre vie privée est essentielle avec un sage conseil. À l'heure des réseaux sociaux, il faut être prêt à assumer certes ce que l'on fait aujourd'hui, mais se demander si on sera prêt à l'assumer aussi plus tard. Internet et l'Agence nationale de la sécurité américaine n'oublient rien, tout y est centralisé. Le décryptualité du 24 février 2020 restait dans la suite de l'affaire Griveaux, la liberté d'expression sur Internet attaquée sous tous les prétextes. Un certain nombre de politiciens s'attachent à essayer de casser la liberté d'expression sur Internet et les réseaux sociaux avec un projet politique qui voudrait limiter la capacité des gens à partager des informations. Il est rappelé que la Chine a essayé, au début, de contrôler l'information concernant le Covid-19, information qui est finalement ressortie et la crédibilité de l'État central a bien diminué. Les intervenants reviennent sur la question de la haine sur Internet. Certaines personnes se font harceler, et c'est dramatique. Des lois existent, pas forcément toujours appliquées. La nouvelle loi qui est en train d'être élaborée, la loi anti-haine sur Internet, était-elle bien nécessaire? En effet, ce sont les plateformes Twitter, Facebook, qui devront s'assurer que les contenus dits haineux soient effacés automatiquement en moins d'une heure. Ce côté automatique ainsi que le fait de déléguer à des plateformes privées la responsabilité de déterminer ce qui relève de la liberté d'expression ne manque pas d'inquiéter. N'est-ce pas là le rôle des pouvoirs publics et avant tout de la justice? L'exemple de Mastodon est cité. Décentralisé, gérer des petites communautés est une solution qui a montré ses atouts. Il faut aussi éduquer les gens et surtout les jeunes. Personne n'a jamais été réellement formé à l'utilisation des réseaux sociaux et bien informé des responsabilités que leur utilisation entraîne pour chacun de nous. Puisque les virus sont de saison, occasion de rappeler les bonnes pratiques pour ne pas se faire infecter, c'était le thème du décryptualité du 9 mars 2020. Cette fois, le mot virus est bien là. Les divers symptômes que peut présenter notre ordinateur sont décrits et il nous est rappelé ce qu'est une bonne hygiène informatique. Avoir un bon système d'exploitation sur son ordinateur ou son téléphone, un système d'exploitation sain dans un ordinateur sain, par exemple une bonne distribution GNU Linux. Faire des mises à jour, toujours, tout le temps, le plus tôt possible. Faire des sauvegardes, c'est-à-dire enregistrer ses données à l'extérieur de son ordinateur pour le cas où on aurait un problème, sur un disque dur externe, sur une clé USB ou chez un hébergeur fiable. Ne pas télécharger n'importe quoi. Éviter de mettre sa clé USB n'importe où, sur des ordinateurs mal gérés, de gens qu'on ne connaît pas ou en qui on n'a pas confiance. À partir du 16 mars, on passe à l'échelon supérieur. Interdiction de sortir et télétravail pour toutes les personnes dont l'activité le permet. Télétravailler et garder des contacts à l'extérieur en période de confinement avec le libre. Avec toutes les incitations à se mettre au télétravail, plein d'outils commencent à être utilisés dans tous les sens. Les gens sont obligés de se lancer et ont tendance malheureusement à se tourner vers des outils propriétaires, ceux qui sont les plus connus, ceux des GAFAM, et c'est bien dommage. C'est en gros une période où on sait qu'on va se faire avoir, on va se faire embrigader dans des briques logicielles et des outils que les entreprises vont payer pour obtenir et utiliser. C'est effectivement rageant parce qu'on sait que ces manœuvres vont rendre les gens captifs. Conseil est donné de se tourner vers les services proposés par Framasoft. Framasoft, victime de son succès. Dans une circulaire du ministère de l'Enseignement supérieur intitulée « Plan de continuité pédagogique », parmi les actions possibles pour les activités de travail collaboratif, les solutions libres de Framasoft sont conseillées sans qu'aucun contact n'ait été établi avec les responsables de l'association, comme l'affirme Pierre-Yves Gosset. Suite à cette incitation, Framasoft a subi une énorme influence et a dû répartir l'utilisation de ses services sur les divers chatons, les associations et entreprises qui proposent des logiciels hébergés sur leurs propres serveurs et qui font partie du collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Pour pouvoir discuter avec les personnes de manière efficace, Jitsi occupe une place de choix. Cette application fonctionne directement dans le navigateur. On va sur le site, on crée un salon et on transmet l'adresse de ce salon à tous les participants qui rejoignent alors la discussion en cliquant et en chargeant la page sur leur navigateur. Une pensée particulière est dédiée à tous les élèves qui sont confinés chez eux avec leurs parents. Sont citées les ressources éducatives libres, Abulélu, Césamat, J'ai compris. Le dernier décryptualité transcrit et publié est celui du 23 mars, dont la description est « Face à la pandémie, de nombreuses initiatives s'appuient sur le libre et ses principes pour proposer des solutions rapides, faciles à mettre en œuvre et mieux travailler ensemble. Il est à nouveau question de Jitsi pour communiquer, mais surtout sont cités les cas de hackers, bidouilleurs, qui imaginent des solutions pour venir en aide à toutes les personnes, aux malades et à leurs soignants. Fabriquer des masques, fabriquer des valves avec des imprimantes 3D, mettre au point des respirateurs. Toute cette inventivité est saluée. Des gens compétents utilisent ces solutions offertes en partage, construisent rapidement, souvent avec des moyens modestes. On vit une période de crise, on n'a pas le choix, il faut agir même si les produits qu'on obtient ne sont pas de qualité optimale. La conclusion nous laisse une lueur d'optimisme et revient à Magali. C'est incroyable toutes les choses positives, collaboratives qui peuvent arriver en temps de crise, qui sont faites et ça mérite d'être salué. Dans l'urgence et face à de tels enjeux de santé, on peut parler de l'intelligence des foules, de l'intelligence du monde quand on lui demande de contribuer dans un esprit de solidarité, en partie grâce à Internet et aux logiciels libres.
Merci Marie-Odile, c'était une très belle chronique. C'est vrai que c'est important de voir ce qui sort de positif aussi de ces situations qui sont par ailleurs particulièrement difficiles. Et alors je veux rebondir sur deux choses que tu as évoquées. Est-ce que tu parles de Jitsi? La semaine prochaine, on va recevoir le créateur de Jitsi justement, qui va pouvoir nous parler un peu de ce logiciel. Et puis je le rappellerai aussi enfin, nous on utilise Mumble, qui est donc un outil d'audioconférence, et le Chapril, donc le chaton de l'April, met à disposition aussi, vient de lancer un Mumble accessible. Un grand merci à nouveau Marie-Odile et je suis ravi que tu sois la première intervenante de la première émission que j'anime. Je te souhaite une très bonne fin de journée, sauf si tu avais un dernier mot.
Merci à vous. Et effectivement, toutes ces solutions qui sont trouvées sont effectivement à saluer et on remercie toutes les personnes qui donnent de leur temps pour les mettre en œuvre. Bonne journée, bonne continuation.
Salut Marie-Odile.
Au revoir.
Au revoir. Et puis j'ai oublié de saluer Framasoft qui viendra aussi, qui participera également à notre émission la semaine prochaine. Donc une belle émission qui se profile. Alors avant de passer à notre sujet principal, nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Allons voir, ou Cercle circassien, excusez-moi, par Demi-Sel. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause commune, la voix des possibles.
Cause commune. cause commune, cause-commune.fm.
Alors, nous venons d'écouter Allons voir par Demicel, disponible sous licence Art Libre. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April, et nous allons passer au sujet principal. Alors, sujet principal qui porte sur la politique logicielle libre de Fleury-les-Aubrais avec William Gonzalez, délégué à la protection des données pour la ville. Donc, bonjour William.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Étienne.
Alors William, tu n'es pas que, et je mets bien sûr des guillemets autour de ce que, tu n'es pas que délégué à la protection des données pour Fleury-les-Aubrais. Alors délégué à la protection des données, DPO pour faire court, tu es aussi un libriste convaincu, tu es membre de l'April à titre individuel, tu as écrit un livre sur le logiciel libre dont on parlera tout à l'heure. Et puis avant d'être DPO, donc, tu as été plusieurs années en charge du service informatique de la ville. Et à ce titre, tu as été un acteur important de l'engagement de Fleury-les-Aubrais pour le logiciel libre, et notamment marqué par l'adhésion de la ville à l'April. Donc William, avant qu'on rentre dans le détail de cet engagement de Fleury-les-Aubrais, est-ce que tu veux bien nous parler un peu peut-être de ton parcours et notamment de comment tu es venu au logiciel libre ?
Oui, bien sûr. Tout d'abord, je tenais à remercier l'April pour cette invitation. C'est pour moi une grande première d'ailleurs d'intervenir à la radio dans l'émission Libre à vous. Donc merci encore pour cette invitation. Voilà, je suis arrivé à Fleury en fait en septembre 2002. J'ai d'abord commencé en tant que technicien et puis j'ai pris assez vite le poste de responsable informatique après le départ de l'ancien responsable. Donc nous étions une petite équipe de 3 personnes pour gérer l'ensemble du parc informatique de la ville de Fleury-les-Aubrais. Ça représentait environ, à l'époque, une centaine de postes de travail. Aujourd'hui, on est à plus de 350 machines et une quarantaine de serveurs. J'avais avec moi donc un technicien support pour toute l'assistance aux utilisateurs, un chef de projet applicatif et puis un administrateur système et réseau. Et c'est vrai qu'avant Fleury, j'avais travaillé dans le secteur privé pendant 1 an et demi et je connaissais pas du tout le logiciel libre. J'avais bien sûr connaissance des systèmes d'exploitation Linux, mais sans vraiment les avoir utilisés. Et dès mon arrivée à Fleury, j'ai travaillé avec un prestataire informatique, un consultant, une société qui avait de très bonnes connaissances dans l'open source, le logiciel libre, et ça m'a permis vraiment de comprendre qu'il existait une autre informatique, des alternatives à Microsoft notamment. Et du coup, voilà, je me suis intéressé au sujet. Et j'ai commencé à travailler ce sujet avec mon équipe.
Ok, super. Comment ça a été accueilli ? Toi, tu es arrivé, donc tu as voulu initier à un moment donné une pratique plutôt alternative vers du logiciel libre. Comment ça s'est mis en place justement et comment ça a été accueilli au sein de Fleury-les-Aubrais ?
Alors j'ai commencé par un projet de migration vers la bureautique libre. À l'époque, en 2002, on utilisait comme principalement l'ensemble des collectivités de la métropole d'Orléans, la bureautique Microsoft, donc Excel, Word, PowerPoint. Et en fait, du coup, je me suis aperçu qu'il existait une alternative. À l'époque, OpenOffice, c'était en 2004, 2005. Donc, on était quelque part assez précurseurs sur le sujet, puisque aucune ville de la métropole d'Orléans avait commencé à s'intéresser à cette migration. Et donc, ça a été vraiment le projet important pour Fleury-les-Aubrais. Alors, comment convaincre pour aller dans ce sens-là ? Donc, j'en ai d'abord parlé à mon élu, qui était l'adjoint à la communication et au système d'information. Il a très vite compris en fait les bienfaits du logiciel libre pour une collectivité. Dans un premier temps, c'est ce qui l'a séduit, c'était de pouvoir réduire un peu la dépense publique, les budgets, parce qu'on sait très bien qu'en collectivité, les budgets sont contraints, on a de moins en moins de subventions de l'État. Et du coup, c'était une possibilité pour faire baisser les dépenses, et notamment les dépenses en licence. Puisque on avait beaucoup de licences Microsoft.
Oui, c'est intéressant ce qu'on voit. Moi, il y a deux choses qui me frappent. Le terme est exagéré, mais d'une part, que le travail est démarré par la bureautique. La bureautique, parce qu'on a déjà vu avec d'autres collectivités avec qui on a pu faire des émissions. Je pense par exemple à la ville de Fontaine, où ça commence très souvent en fait par la bureautique, qui est finalement un des premiers besoins. Et peut-être, j'imagine, et tu pourras me corriger, un des premiers pas les plus simples à prendre, et en termes de démonstration, notamment parce qu'il y a un logiciel performant qui existe. Et puis cet argument du budget qui est assez souvent finalement peut-être également une première approche, une première manière de convaincre. Et est-ce que ça allait plus loin par la suite? C'est resté très budget? Est-ce que l'intérêt politique, et pas seulement financier, a perclu aussi auprès des élus? Quel est le rapport finalement après plusieurs années?
Alors oui, après on a dépassé aussi le côté budgétaire. C'était aussi une façon de dépenser autrement l'argent public, puisque en fait, par exemple pour la migration vers la bureautique libre, ce que j'ai émis, c'était de dire l'économie faite en licence, on va pouvoir le redistribuer aux utilisateurs sous forme de formation, puisqu'on s'est aperçu qu'en fait beaucoup d'agents n'avaient jamais eu de formation sur la bureautique, et c'était l'occasion aussi de leur fournir une formation, et puis de montrer aussi aux élus une certaine indépendance vis-à-vis des éditeurs du marché. Il faut savoir qu'en collectivité, on utilise beaucoup d'applications métiers, on a beaucoup de contraintes de maintenance, on subit ces contraintes de maintenance parfois assez onéreux. Et donc l'idée, c'était aussi d'être un peu plus indépendant vis-à-vis des éditeurs du marché.
Oui, c'est effectivement des points cruciaux, et c'est vrai qu'on les met beaucoup en avant, nous, quand à l'April nous défendons une priorité au logiciel libre. Alors on entend souvent, ça me fait penser qu'on entend souvent cet argument, peut-être moins maintenant, mais celui des coûts cachés, et je pense que tu résumes très bien il ne s'agit pas de coûts cachés, mais seulement de repenser la dépense, et en fait d'être plus dans une démarche d'investissement, de réappropriation des systèmes d'information, et notamment aussi entre les mains des agents publics qui vont la pratiquer au quotidien. Et par ailleurs, on voit aussi cette notion d'indépendance. Alors, comment elle s'exprime, finalement, aussi, cette notion d'indépendance dans le quotidien? Tu l'as déjà un peu expliqué, mais si tu peux creuser un peu.
Oui, bien sûr. Ensuite, après la bureautique libre, on a continué en fait à développer le logiciel libre au sein de la collectivité. Nous, services informatiques, on devait montrer l'exemple. Donc, on a mis en place GLPI, qui est la gestion libre de parc informatique. C'est le logiciel qui nous permet de gérer l'ensemble du parc informatique, de recenser les postes de travail, les imprimantes, les copieurs, d'avoir aussi un outil de ticketing, de support vis-à-vis des utilisateurs. Et donc, au lieu d'avoir un contrat de maintenance avec un logiciel, on était capable en interne de pouvoir assurer la maintenance de l'outil sans recourir à un contrat de maintenance avec un éditeur, de pouvoir assurer soi-même les montées de version du logiciel. Et c'est aussi ça l'indépendance, c'est peut-être se réapproprier les compétences en interne. Alors évidemment, il a fallu que les agents du service informatique se forment, puisque mon équipe n'avait pas forcément de compétences dans l'open source, donc il a fallu vraiment monter en compétences. Mais après, voilà, ça nous a permis de reprendre entre guillemets la main sur certains outils. Et puis, si je rebondis sur le choix des élus, les élus ont vraiment bien compris le fondement en fait de ce projet-là. Ils ont même du coup adhéré. La ville de Fleury-les-Aubrais a adhéré à l'April en tant que ville. Donc, ça a été aussi un moteur de ce point de vue, quoi.
Oui, et c'est effectivement un signe très positif. On peut aussi mentionner le fait que Fleury-les-Aubrais est récompensé, le label 3 du territoire numérique libre, ça qui est une initiative de l'association Adulact qui va spécialiser le logiciel libre pour les collectivités. Et donc ça, c'est des signes aussi qui sont encourageants, parce que il est important, lorsque ce genre de démarche est initiée, qu'elle ne repose pas uniquement sur une personne, et en l'occurrence toi, et qu'on puisse imaginer que si tu vas vers d'autres aventures, d'ailleurs c'est un peu ce que tu as fait, on en parlera plus tard, finalement qu'il y a une pérennité aussi dans cette ambition du logiciel libre. Est-ce que toi, elle te semble donc acquise, a priori oui, de ce que tu nous dis, mais elle te semble acquise donc à Fleury-les-Aubrais?
Oui, bien sûr, puisque bon, après la bureautique, on a enclenché vers la messagerie électronique, hein, puisque on avait le client Outlook et on voulait aussi s'affranchir des licences Microsoft à Outlook. On s'est orienté vers la solution Zimbra. Et puis ensuite, on a développé d'autres outils. On utilise GRR pour la gestion des réservations de ressources. On utilise beaucoup d'applications métiers, hein, aussi, WebDelib pour la gestion des délibérations. Donc il y a vraiment, voilà, il y a vraiment, comment je pourrais m'exprimer, mais aujourd'hui les élus ils sont partie prenante en fait de cette orientation. Donc je pense qu'une fois qu'on a convaincu les élus, c'est vraiment une bonne chose, quoi.
Oui, ça me semble essentiel, effectivement, et on voit bien comme il est nécessaire qu'à la fois, on va dire, les pôles techniques, les pôles, entre guillemets, plus politiques, travaillent main dans la main, sinon c'est bien que ça peut vite freiner, donc c'est encourageant ce que tu nous dis. J'en profite aussi pour préciser que tu cites de nombreux logiciels, et c'est important d'utiliser une variété de logiciels libres pour les différents besoins que peuvent rencontrer une collectivité. On les listera autant que possible sur le site, et n'hésitez pas à venir sur le salon pour nous rappeler, voilà, si vous voyez qu'il manque, on listera tout ça suite à l'émission. Je pense qu'il est intéressant aussi, parce que tu parlais du service interne, et on voit, enfin, le service technique interne. Donc, tu parlais, voilà, de formation en termes d'acquisition de compétences, etc. Et c'est quand même aussi un point névralgique, c'est la capacité en interne des équipes techniques, donc de porter aussi cette ambition. Quand toi tu as lancé tout ça, comment est-ce que les équipes techniques justement ont reçu cette envie, ont accompagné ces dynamiques? Est-ce qu'il y a eu des résistances? Est-ce qu'au contraire il y a eu un emballement, enfin un plaisir à s'engager là-dedans? Enfin voilà, comment tu l'as ressenti tout ça et comment ça s'est déroulé donc de leur point de vue?
Bah, en tout cas, mon équipe avait pas forcément de compétences, hein, sur le point une fois, et du coup, tout de suite, voilà, je les ai formés. Ils étaient assez emballés en fait de découvrir d'autres outils. Ça s'est fait assez naturellement, hein. En informatique, de toute façon, quand on est informaticien, il faut se remettre en question. Aujourd'hui, on peut être très bon, si on se forme pas, on peut être le plus mauvais demain. C'est aussi ancré dans notre culture, et j'ai aussi profité de ça. On était une équipe jeune, dynamique, et mes collègues ont vraiment bien accueilli cette nouvelle orientation d'aller vers le logiciel libre. On a d'ailleurs mis en place des serveurs sous Linux. Donc on n'administre pas un serveur Windows comme on administre un serveur sous Linux. Donc il a fallu quand même du temps, hein, pour s'approprier les choses. On s'est fait aussi aider par une société qui était spécialisée dans le domaine de l'open source, qui nous a accompagnés pour justement être autonome.
Alors une question qui nous est revenue, il me semble, plusieurs fois et que je pense importante, qui nous est revenue plusieurs fois sur quand on parlait de collectivité, parce que j'imagine, tu nous as expliqué que le nombre de postes a augmenté, donc j'imagine que dans tout ce processus il y a eu des besoins de recrutement. Donc est-ce que le côté libriste c'était un critère de recrutement ou pas forcément, il était simplement question de former la personne?
Alors c'était un plus, hein, effectivement, quand je suis arrivé à la ville, au départ j'étais tout seul, j'ai dû recruter mes collègues, et c'est vrai que bon, même si mes collègues n'avaient pas forcément, en tout cas, de compétences dans l'open source, c'était pas un frein pour moi, hein, parce que voilà, on a la chance en collectivité de pouvoir se former assez facilement. On a des organismes, le CNFPT notamment, hein, qui permet aux agents territoriaux de se former. Donc non, c'était pas un frein, cette partie-là.
Alors on sait aussi un autre aspect, c'est que du coup j'imagine, puisque qui dit travailler sur des logiciels libres, en général ça veut dire aussi peut-être avoir des interactions avec des communautés qui sont derrière ces logiciels libres. Donc plutôt voilà, d'imaginer que Fleury-les-Aubray, ou du moins que les agents de Fleury-les-Aubray peut-être vont interagir avec les communautés. Est-ce que déjà ça s'est fait? Est-ce qu'il y a des échanges positifs avec les communautés, ou vous récupérez des logiciels et enfin, c'est pas d'ailleurs une critique si c'est le cas, hein, et vous les utilisez en interne? Est-ce qu'il y a une politique, voilà, de contribution au projet logiciel? Comment tout cela s'est mis en place?
Il n'y a pas eu de politique de contribution hein, au logiciel. On utilisait les logiciels qu'on avait sur le marché. On utilisait beaucoup le projet OpenMairie. C'est un très bon exemple hein, parce qu'il dispose d'un catalogue de logiciels libres vraiment dédié et spécifiquement aux communes. Je citerai par exemple OpenADS, un logiciel libre de gestion des autorisations du droit des sols, OpenCimetière, etc. Donc on s'est plutôt appuyé sur ce qui se faisait. On n'avait pas forcément le temps de pouvoir contribuer directement dans les communautés. Moi, par contre, j'ai réalisé un rapport hein, sur la migration vers la bureautique libre que j'ai mis à disposition sur le site officiel francophone OpenOffice à l'époque. Donc, au moins pour partager mon expérience, comment je m'y étais pris, ma méthodologie. Et c'était aussi une façon de contribuer à cette dynamique.
Très bien. Oui, c'est important, on le sait bien. Alors du coup, peut-être pour aussi, est-ce que tu avais évoqué quelque chose, je pense qu'il serait intéressant de rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors parfois tu nous parles voilà de compétences qui ont été comment dire formées en interne pour pouvoir voilà j'imagine faire les développements nécessaires directement en interne, faire l'administration système en interne, etc. Et peut-être par ailleurs tu nous as aussi évoqué voilà du recours à des prestataires. Donc toutes ces 100% internalisées, les besoins techniques, est-ce qu'il y a un équilibrage, comment tout cela s'est mis en place?
Non, c'est pas 100% internalisé parce que du fait que une petite équipe, trois personnes, hein, on gère à la fois l'informatique, la téléphonie, l'assistance aux utilisateurs, la gestion des serveurs, des réseaux. Donc en fait, en fonction du projet, je prends l'exemple de la messagerie Zimbra. Zimbra, il faut quand même des compétences hein, pour mettre en œuvre ce type de système. Et là, on a fait appel à un prestataire hein, qui avait vraiment les compétences pour mettre en place cette messagerie électronique. Et on a même contracté un contrat de maintenance avec ce prestataire pour voilà, nous aider à mettre en œuvre le projet et puis aussi à suivre et à maintenir ces outils. Donc en fait, ça dépendait du type de projet, du type d'outil. Pour GLPI, le logiciel de gestion de parc informatique, on a pu le faire nous-mêmes en interne. Mais voilà, sur la mise en place d'infrastructures importantes, on s'est fait aider par des sociétés qui ont spécialisé dans le domaine, puisque bon, en interne, on n'avait pas les compétences et puis pas forcément le temps non plus, la disponibilité pour pouvoir le gérer.
D'accord, donc en somme, si je comprends bien, c'est plus en termes d'opportunités, en fonction de ce que vous semblez, par rapport à vos propres compétences, compétences de l'équipe, et d'arbitrer voilà, en fonction des besoins.
Voilà, puis aussi par rapport à la criticité d'une application. Hein. C'est vrai que la messagerie, c'est très critique. Hein. Il faut que ça fonctionne 24 heures sur 24. Donc voilà, ça demande aussi de l'expertise, un peu plus d'expertise qu'on n'avait pas en interne du fait de notre petite équipe.
Alors tu parles de la messagerie, ça permet peut-être aussi de faire une transition parce qu'on imagine, alors là on parlait des équipes techniques, bien sûr il faut aussi, j'imagine que les autres agents publics qui ne sont pas forcément techniques, qui vont avoir différents métiers au sein de la collectivité soient inclus dans le processus, qui ont besoin d'être formés, ils vont peut-être avoir besoin de remonter des besoins, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu, alors déjà comment ils ont peut-être été inclus dans le processus au début par cette bureautique et comment ça a pu évoluer par la suite
Oui, c'est vrai, c'est un point très important d'organiser vraiment une bonne communication autour du projet de migration. On l'a fait à Fleury-les-Aubrais. Hein. On a organisé plusieurs réunions d'information avec l'ensemble des utilisateurs pour leur expliquer pourquoi on voulait s'orienter vers tel logiciel bureautique, de leur dire qu'on allait les accompagner aussi puisque pour les rassurer, hein, puisque c'est la bureautique, ça touche quand même au quotidien des utilisateurs. C'est difficile, il y a beaucoup de conduite de changement. Donc il a fallu les rassurer, leur donner aussi envie hein, d'utiliser la suite bureautique. À l'époque, j'avais distribué des CD avec OpenOffice pour que les agents puissent les installer chez eux. Et ça a plutôt bien marché. Et on a vraiment été à l'écoute de leurs demandes et surtout. Le service informatique a été très réactif. Hein. À chaque fois qu'il y avait des questions posées sur cette suite bureautique, on a essayé d'y répondre le plus rapidement possible pour vraiment que ça soit le plus transparent vis-à-vis de l'utilisateur. Donc beaucoup d'accompagnement, vraiment donner envie aux utilisateurs de d'utiliser cet outil et puis qu'ils puissent en tirer un bénéfice. Et ce bénéfice a été aussi de leur fournir une formation adaptée à leurs besoins et à leur niveau d'utilisation.
Entendu. Donc là, c'était le stade bureautique. J'imagine qu'ensuite, il a fallu aussi faire les migrations sur des logiciels métiers. Est-ce que ça a été fait plus simple du coup? Le premier pas, le plus difficile, c'était la bureautique, ou au contraire, peut-être que c'était plus difficile sur les logiciels métiers? Comment tu as vécu tout cela?
Le plus difficile, j'ai trouvé que c'était la bureautique, parce que finalement, ça concernait l'ensemble des agents. Il y avait forcément des a priori. En plus, on passait sur un outil libre, gratuit. La gratuité, c'est pas forcément à mettre en avant, parce que souvent, on se dit, si c'est gratuit, c'est pas forcément un outil de bonne qualité. Donc la difficulté, c'était plutôt sur la bureautique, puisqu'en plus, c'était le premier projet à Fleury-les-Aubrais.
Est-ce que tu peux nous rappeler sur quelle date ça c'était? Je pense que c'est important aussi de se remettre dans le contexte des époques. Donc ça, c'est migration bureautique, vous avez entamé ça quand déjà?
Alors, on a entamé ça en 2005. Alors, on l'a fait sur plusieurs années. Hein. On a migré, en fait, service par service. On l'a fait sur 3 ans. Mais on a commencé la migration dès 2005. C'était à l'époque de OpenOffice, la version 2, qui venait de sortir. Donc 2005 pour la bureautique OpenOffice.
D'accord. Donc ensuite, je t'ai interrompu. Donc ensuite, voilà, sur le logiciel métier du coup, mais dans un second temps, tu nous expliquais.
Voilà, les logiciels métiers. Après, c'était plus facile parce que finalement, ça touchait moins d'utilisateurs. L'essentiel, en fait, c'était de répondre aux besoins du service. Moi, je mets toujours en avant faut que le logiciel réponde aux besoins. Si c'est un logiciel libre, tant mieux. Et c'est ce qui avait été décidé dans la collectivité, hein, et les élus avaient bien compris que, en fait, à chaque fois qu'on avait un nouveau besoin en logiciel, on regardait ce qui se faisait du côté du logiciel libre. Mais la priorité, il fallait que ça réponde aux besoins du service.
D'accord, la priorité, c'est besoin du service, mais quand même, le facteur logiciel libre restait un facteur aussi, pas exclusif, mais du moins quand même discriminant dans le choix, le caractère libre du logiciel.
Oui, bien sûr, parce que avec mon expérience sur les, on a beaucoup de logiciels métiers en collectivité. Et en fait, on s'aperçoit qu'on n'utilise pas toujours 100% des fonctionnalités du produit, et pourtant on en paye 100% de la licence. En tout cas, on règle la totalité de la facture. Et en utilisant des logiciels libres, on a des coûts moins élevés. Et ça me semblait aussi intéressant de ce point de vue, quoi.
Mais en fait, ce que tu décris, c'est très intéressant justement. Nous, c'est ce qu'on dit quand on défend, on le répète souvent, quand on défend priorité au logiciel libre, il ne s'agit pas de dire que les collectivités, les administrations, ou en fait même à un niveau personnel, une sorte d'obligation hors sol d'utiliser du logiciel libre. Il faut juste effectivement que ce soit un facteur important et qu'il y ait conscience justement de tous les l'intérêt. En termes de et tous les intérêts que tu as pu évoquer en termes d'indépendance, en termes de bonne gestion du denier public, etc. En termes de s'appuyer là-dessus, de prendre conscience que c'est important, mais il faut pas être hors sol, il faut lier aux besoins, et en fait ça fait juste un facteur important de décision. C'est surtout ça que ça veut dire priorité, et que si on ne n'utilise pas le logiciel libre, il faut qu'il y ait des bonnes raisons de pas le faire. Avant de passer à la suite, je pense qu'on va pouvoir faire une pause musicale. Alors, je vous propose donc d'écouter My Little Kingdom par Golden Duck Orchestra. On se retrouve juste après. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune
93.1. Every day is new, but I'm old. Now I'm sold. Yeah, I'm sold. Every
cause commune, cause-commune.fm.
Alors, nous venons d'écouter My Little Kingdom par Golden Duck Orchestra, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission affaires publiques pour l'April, et nous échangeons avec William Gonzalez, délégué à la protection des données de la ville de Fleury-les-Aubrais et ex-responsable de son service informatique. Nous parlons donc de la politique logicielle libre de la collectivité. Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Alors, donc avant la pause musicale, nous discutions finalement de toute la politique mise en place en termes de migration, et notamment du coup de la formation et de l'importance de former et de convaincre les agents publics pour que les intégrer dans le processus. Moi, je voulais juste peut-être mentionner rapidement l'expérience personnelle, c'est-à-dire que j'étais venu à Fleury-les-Aubrais j'ai oublié de noter la date, mais il y a 2 ans de mémoire pour le forum du numérique. Et j'ai été très marqué par l'enthousiasme. Alors j'avais discuté avec l'agent public qui était en charge un peu d'organiser l'événement, qui n'était pas du tout une personne libriste à la base, qui n'était pas une technicienne, qui était une personne du service administratif, et qui était extrêmement emballée et qui disait voilà, William nous a tous convaincus depuis. Voilà, j'utilise aussi à la maison et j'ai trouvé que c'était un super compliment déjà vis-à-vis de ton travail et puis de manière un bel exemple, une belle illustration de comment finalement peut s'essaimer un peu le libre et l'intérêt d'aller vers le libre. Alors peut-être, là on a parlé pas mal de l'intérieur, avant de se tourner vers aussi vers un peu l'extérieur, les administrés, est-ce que tu aurais, si une collectivité, en gros pour résumer, pour tirer un bilan de cette migration, quel bilan tires-tu de cette migration et quels conseils, quelques points clés tu donnerais à une collectivité qui voudrait se lancer dans cette démarche?
Alors les conseils que je pourrais donner à une collectivité, c'est bien sûr de bien former son équipe en interne sur les produits open source, bien maîtriser en interne ces systèmes-là. L'avantage pour une collectivité, en fait, pour moi, je trouve que c'est important d'explorer cette direction. C'est une façon, je l'ai dit tout à l'heure, d'être moins dépendant des éditeurs. C'est une façon d'optimiser la dépense publique, et ça c'est important de dépenser autrement. C'est aussi une façon de mieux protéger les données personnelles, et c'est vrai que maintenant je suis bien concerné par le sujet. Donc c'est vraiment, il y a vraiment des bienfaits pour les collectivités. C'est aussi le rôle d'une collectivité de montrer aux citoyens qu'il existe d'autres alternatives. On n'a pas beaucoup de marketing autour du logiciel libre, et je pense que les collectivités ont leur rôle à jouer de ce côté-là pour promouvoir un peu ces outils.
Oui, ce rôle me semble particulièrement important. Bon, déjà parce que par la dépense publique, les logiciels des collectivités, ça va pouvoir enrichir des logiciels, puisqu'ils sont libres, pourront être réutilisés par les citoyens, qu'ils soient à titre individuel, dans le cas d'entreprises, elles vont pouvoir être réutilisées par d'autres collectivités, et donc d'avoir une forme d'investissement commun à la création justement d'un commun logiciel qui pourra bénéficier à toutes et à tous. Donc on voit vraiment l'importance de ça. Et puis par l'exemple, comme tu dis, ça remplace, il n'y a pas meilleur finalement entre guillemets campagne marketing que la démonstration par l'exemple concrètement de l'efficacité. Et là c'était l'exemple que je citais peut-être de cette fonctionnaire de Fleury-les-Aubrais qui du coup était convaincue non seulement dans son travail mais dans sa vie, dans son usage informatique personnel, de l'intérêt d'utiliser du logiciel libre. D'ailleurs on a
juste pour rebondir, j'essaye toujours de faire le lien aussi avec la vie personnelle. Quand on utilise des outils à titre professionnel, on peut aussi les utiliser à titre personnel, et je fais beaucoup ce lien. Et je continue d'ailleurs à le faire en tant que délégué à la protection des données lors des formations de sensibilisation. Nos bonnes pratiques au travail, on peut les transposer assez facilement à titre privé.
Parfaitement, c'est très bien dit. Il y a un point peut-être, parce qu'il faut aussi, c'est bien de voir tout ce qui est positif, mais peut-être qu'il est intéressant aussi pour progresser et de tirer comme expérience. Est-ce que tu as identifié, est-ce que tu as dû surmonter des freins, des obstacles? J'imagine que oui, pendant tout ce processus. Est-ce que tu pourrais peut-être les identifier et nous expliquer comment, le cas échéant, comment tu as pu les dépasser et avancer malgré tout?
Bah, le principal frein, c'est bon la réticence de l'utilisateur aussi, hein, puisque moi c'est ce que je dis assez souvent, la clé de la réussite finalement c'est l'utilisateur. Hein, si l'utilisateur n'utilise pas le logiciel, finalement le projet a échoué. Donc c'est toujours toujours convaincre, hein, puisque aller vers le logiciel libre, c'est pas forcément un chemin facile, hein, puisque aujourd'hui on nous vend plutôt du Microsoft, du Google, etc. Il faut sans cesse en fait expliquer notre démarche, ne pas rester que sur l'aspect budgétaire, gratuité, puisque le logiciel libre, il ne faut pas le résumer à la gratuité, hein, c'est inexact, ça serait vraiment très réducteur. Donc le principal frein, voilà, c'est ça, c'est de faire connaître en fait le monde du logiciel libre. C'est un problème, je pense, culturel aussi, hein, d'acculturation, c'est très important de communiquer, vraiment d'être à l'écoute des agents.
C'est très intéressant et ça, moi, ça me fait penser justement parce qu'en fait l'informatique en général c'est compliqué, c'est pas évident, c'est pas de la magie, ça demande un peu de formation, ça demande de la compréhension, du temps, d'apprentissage, c'est pas inné pour qui que ce soit. Et donc le logiciel libre, comme tout chose informatique, et te peut demander du temps. Et on voit par ailleurs, effectivement, et je trouve que, enfin, tu fais un peu ce parallèle, il me semble, on voit bien que l'informatique dominante, moderne, a plutôt tendance à nous pousser à avoir un rapport plutôt passif à l'informatique. En gros, tout ce qui se passe pour recréer peut-être cette illusion de magie et faire que la personne n'ait pas envie de savoir comment ça fonctionne derrière. Alors qu'on sait bien que l'informatique est un outil par lequel, voilà, on va avoir des interactions sociales, notre liberté d'expression dépend de plus en plus de ces outils, le respect de nos intimités, etc. Donc c'est un outil qui est extrêmement important, et savoir comment ça marche est un enjeu politique, donc de formation, etc. Donc c'est très important, effectivement, cette idée d'accompagnement et de repartir des utilisateurs pour qu'ils aient un rapport émancipé à l'informatique. Et, voilà, je ne peux que être d'accord avec ce que tu dis. Et tu parles de sensibilisation, donc je te propose de faire un pont aussi, du coup, vers les administrés, vers les citoyens, citoyennes, vers les personnes, les usagers. Lorsqu'on avait échangé en amont de l'émission, tu me faisais part notamment des actions de sensibilisation que menait Fleury-les-Aubrais vers les citoyens, les citoyennes. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots?
Oui, bien sûr. On a organisé en fait des ateliers à la bibliothèque de la ville de Fleury, des ateliers à destination du citoyen. Alors un atelier vraiment spécifiquement au logiciel libre, hein, pour leur expliquer qu'on a des alternatives aux outils propriétaires qu'ils utilisent principalement. J'ai également fait un atelier sur le RGPD, hein, la protection des données personnelles, et je fais beaucoup le lien entre le logiciel libre et la protection des données personnelles. Donc voilà, on a beaucoup travaillé avec la bibliothèque, qui est un lieu en plus de culture où les gens se rencontrent. Et l'idée, c'était d'animer des ateliers pour faire connaître ces outils-là. On a travaillé également avec les écoles. Ça me semblait aussi important d'en parler.
Je suis d'accord, tu devances une de mes questions. Donc je t'en
d'accord. Oui, un petit focus sur les écoles, hein, puisque moi ça me semblait important de montrer aussi aux enfants le monde du logiciel libre, hein, parce que très souvent les enfants connaissent le système d'exploitation Microsoft, le moteur de recherche Google, et dès tout petit, hein, ils sont déjà conditionnés avec ces outils. Donc l'objectif, c'était de développer un peu leur curiosité, de montrer aussi aux parents une nouvelle façon d'appréhender l'informatique avec une même facilité. Et dans les écoles, on a travaillé avec les enseignants, le corps enseignant, le conseiller TIS, pour proposer des alternatives qui collent vraiment aux besoins de l'apprentissage. Et c'est comme ça qu'on a mis en place une expérimentation avec la mise en place de nano-ordinateurs, le Raspberry, hein, pour pas le citer, avec un système d'exploitation adapté au monde scolaire, avec la solution PrimeTux.
Ok, alors est-ce que si quelqu'un, si tu te fais expliquer ce qu'est un nano-ordinateur à une personne, et Raspberry Pi en particulier, à quelqu'un qui ne connaîtrait pas l'informatique?
Alors, un nano-ordinateur, c'est un ordinateur de toute petite taille. Hein. Alors, pourquoi on a choisi ce nano-ordinateur pour les écoles? Déjà, parce que ça permet de gagner de la place. Hein. C'est un nano-ordinateur qu'on peut fixer derrière l'écran. Ça remplace, en fait, l'unité centrale. L'intérêt, c'est aussi le coût, hein, qui est faible. Hein, c'est une cinquantaine d'euros. Et puis le nano-ordinateur a une vertu aussi écologique, hein, puisqu'il consomme très peu de watts, hein, environ 5 watts, très peu par rapport à un ordinateur classique. Donc évidemment, il ne remplace pas un PC, hein, puisqu'il est en termes de performance beaucoup moins évolué, mais en tout cas, il permet voilà, de faire des choses assez simples, et pour les enfants, ça suffit amplement pour que ça réponde aux besoins.
Oui, c'est intéressant. Du coup, ça fait un parallèle avec ce que tu as pu évoquer plus tôt sur, en fait, ça sert à rien d'avoir des outils très puissants dont on va servir que d'une part un film. Alors, tu parlais ça par rapport au fait de payer la licence. En fait, on se sert que de quelques, on a que quelques usages. Là, finalement, pour l'ordinateur et dans le cadre de l'éducation, il n'y a pas besoin de bêtes de guerre. Et en fait, on peut déjà former et enseigner avec des tout petits ordinateurs qui consomment très
exactement.
Peu.
Exactement. Et puis c'était aussi de dire aux parents, hein, de dire que si leur enfant veut découvrir l'informatique, hein, on n'est pas obligé d'acheter un PC à 500 €. Hein, le nano-ordinateur peut suffire pour faire découvrir l'informatique à un enfant sans dépenser beaucoup d'argent. Et c'était aussi l'idée du projet de montrer aussi aux parents que il existait ce petit ordinateur où les enfants notamment dans les écoles primaires, maternelles, pouvaient utiliser.
Alors, je connais de nom Raspberry Pi, j'ai pas encore vraiment creusé, manipulé l'objet, alors c'est dans la liste des choses à faire, on en a tous. Mais j'ai la sensation que c'est aussi une manière peut-être pour un enfant d'avoir un rapport non seulement avec les aspects logiciels, mais aussi de faire le lien peut-être avec l'aspect matériel, parce qu'il va pouvoir un peu manipuler l'objet. Et je pense que c'est important de voir que aussi l'informatique, à la fois il y a l'aspect numérique, mais aussi l'aspect matériel, et que les deux sont interdépendants.
Oui, d'ailleurs, ça fait l'objet d'un atelier, hein, à la bibliothèque de Fleury-les-Aubrais. On a présenté le Raspberry, on a démonté pour montrer voilà le processeur et vraiment tous les composants du Raspberry. Et ça a vraiment plu. En plus, il y avait des enfants dans la salle et ça a été très bien accueilli. Et donc oui, c'est intéressant aussi de montrer en fait tout l'aspect matériel. Hein. Il y a évidemment pas que le logiciel. Hein, pour que le logiciel fonctionne, il faut bien sûr l'aspect matériel.
Très bien. Alors, on a plusieurs fois évoqué, tu as plusieurs fois évoqué le fait que les données personnelles. Le règlement général des données personnelles, le fait que tu es délégué protection des données. Alors, je pense que c'est beaucoup de choses intéressantes à voir. Avant qu'on passe sur ce sujet différent, mais bien sûr connexe, est-ce qu'il y a un dernier point que tu voulais évoquer là dans le rapport peut-être aux administrés, dans tout le processus de la politique logicielle libre dans un sens plus strict de Fleury-les-Aubrais?
Comme ça. Non, je pense que voilà, c'est important de communiquer auprès des usagers. Hein. C'est vrai qu'on l'a fait aussi par l'intermédiaire des écoles, hein, parce que les écoles, c'est souvent en plus les parents pauvres de l'informatique. Donc ça me semblait aussi important d'essayer de développer le numérique au sein des écoles. Je pense qu'il faut continuer, les collectivités doivent continuer à faire la promotion du logiciel libre auprès du citoyen. C'est aussi une façon c'est des valeurs aussi à transmettre, des belles valeurs, hein, de partage aussi, de solidarité. Hein, j'en ai pas parlé, j'en parlerai peut-être tout à l'heure avec le livre. Mais le logiciel libre fait aussi à de belles valeurs, quoi.
Bah, ce qui m'aide de faire cette facilité, mais qui je trouve très parlante, hein, on sait que Richard Stallman, qui est un des premiers penseurs, le premier à avoir théorisé le logiciel libre, on va dire et qui aimait bien cette phrase de dire qu'en fait le logiciel libre est l'incarnation de la devise liberté, égalité, fraternité. Et je trouve que ça résume bien en fait ce que je vous expliquais, et je trouve que c'est une phrase qui est très parlante. Et rappelons aussi justement que les écoles primaires dont tu me parlais sont justement l'échelon administratif, enfin, s'occupe des écoles primaires, ce sont les villes. Donc, on voit bien qu'il y a une responsabilité directe à gérer, voilà, ce niveau d'éducation. Je bafouille un peu.
Oui, bien sûr.
Alors, est-ce que déjà tu peux, alors, pour parler sur ces sujets, est-ce que, je pense qu'il y a un sujet extrêmement important, ce lien entre logiciel libre, protection de nos intimités, voilà, respect des données personnelles, etc. Et donc tu as un regard particulier, parce que donc tu as été responsable des services informatiques, maintenant tu es délégué à la protection des données. Ouais. Est-ce que tu peux déjà nous dire c'est quoi donc un DPO, qu'est-ce que c'est un DPO, qu'est-ce que ça fait?
Oui. Bien sûr. Alors le délégué à la protection des données, donc il est lié à la nouvelle réglementation européenne, hein, on en entend beaucoup parler, hein, le RGPD, hein, qui est le règlement général sur la protection des données, qui est rentré en application le 25 mai 2018. Et le rôle du DPO, c'est vraiment de faire en sorte que la collectivité soit en conformité avec cette nouvelle législation européenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être en conformité avec cette législation ? Dans un premier temps, le délégué à la protection des données doit constituer le registre des traitements de la commune. Je l'ai pas dit, mais toute commune, hein, toute collectivité, quelle que soit la taille de la commune, a l'obligation de nommer un délégué à la protection des données. Donc si j'en reviens aux missions du DPO, donc il doit constituer le registre des traitements de la commune. Alors qu'est-ce que le registre des traitements de la commune ? Ce sont l'ensemble des traitements utilisés par la commune et des traitements avec des données à caractère personnel. Donc ça peut être à la fois des tableaux bureautiques avec des données personnelles, ça peut être des logiciels métiers, hein, puisqu'on a beaucoup de données personnelles que l'on collecte à travers des logiciels métiers. Ça peut être aussi des traitements papier, puisque les traitements papier sont aussi intégrés dans le RGPD. Donc le rôle du DPO, c'est de faire ce recensement alors des différents traitements. Alors ce recensement, il va assez loin, hein, puisqu'il va falloir définir quel type de données on collecte, de définir des durées de conservation, hein, puisque le RGPD oblige les organisations, les collectivités, les entreprises à définir des durées de conservation. On ne peut pas garder des données de façon indéfiniment. Il va falloir ensuite décrire les mesures de sécurité par rapport à ces traitements. Donc c'est à travers ce recensement que le délégué à la protection des données, il va pouvoir établir un plan d'action et mesurer les non-conformités et de pouvoir aller justement vers cette conformité et apporter des solutions aux collectivités. Une des missions importantes du délégué à la protection des données, c'est aussi de sensibiliser le personnel, notamment sur la sécurité informatique, hein, sur les usages, les bons usages de nos outils numériques, avoir les bonnes pratiques, savoir reconnaître un mail frauduleux, par exemple, puisqu'on sait très bien que on a beaucoup de cyberattaques, hein, surtout en ce moment avec le contexte actuel, et donc c'est important de sensibiliser le personnel. La sécurité informatique, ce ne sont pas que les outils, ce ne sont pas que les pare-feux, les antivirus. L'être humain, c'est aussi une faille. Et donc, du coup, on ne peut pas être derrière l'épaule de chaque personne. Donc, c'est important de sensibiliser le personnel. Et c'est vraiment une mission importante du délégué à la protection des données. Et puis c'est celui qui sera l'interlocuteur avec la CNIL, hein, qui est la Commission nationale informatique et liberté, hein, qui reste l'unité de contrôle en France. Et du coup, c'est vraiment le DPO qui fera le lien entre la CNIL et puis la collectivité. Alors la CNIL, on la contacte pas que quand on a des, elle est pas là que pour sanctionner, hein, les organisations. On peut aussi poser des questions à la CNIL. Donc voilà en fait les différentes missions du délégué à la protection des données. Donc je dirais, on va dire, trois grandes compétences pour le DPO. La première, bien connaître les nouvelles technologies, la sécurité informatique, donc avoir des compétences informatiques, évidemment. Des compétences juridiques, hein, bien connaître le RGPD, la loi informatique et liberté, puisque le DPO peut être amené aussi à rédiger des clauses RGPD, notamment dans les contrats de maintenance, mais ça peut être aussi dans les marchés publics, hein, puisqu'il va falloir aussi vérifier la conformité des sous-traitants. Et puis aussi être communicant. Hein, le DPO ne doit pas rester seul dans son bureau. Il doit aller vraiment au contact des personnes, aller sur le terrain et de bien faire passer le message. Et moi, c'est ce que je dis assez souvent. Ne pas dire que le RGPD c'est une contrainte, mais s'en servir pour justement mieux maîtriser nos données personnelles. Il faut se servir de cette contrainte finalement comme une opportunité pour mieux gérer en fait ces process en interne.
Parfait. Parfait, non, c'est très clair et je pense que, et ça c'est un argument qu'on utilise d'ailleurs depuis longtemps, que ce soit sur les notions effectivement de l'informatique loyale, de la protection des intimités en ligne, etc. C'est-à-dire qu'effectivement c'est pas des contraintes, c'est des choses sur lesquelles s'appuyer pour bâtir une meilleure informatique, un meilleur rapport à nos outils. Et donc c'est très clair ce que tu nous dis. Un point que je pense qu'il est important peut-être de souligner, on se rend, je pense, pas compte quand on explore tout ça, parce que je pense que les collectivités brassent une quantité de données personnelles qui est énorme. Donc on peut se rendre compte de l'importance, voilà, qu'il y ait une bonne gestion de ces données. Et aussi, on entend régulièrement, on sait que normalement, enfin, le consentement au traitement des données n'est qu'un des aspects qui permet justement d'avoir un traitement conforme. Et les collectivités ont plein de traitements qu'elles font, mais qui vont sans consentement direct, parce que ça va relever, tu pourras me corriger, mais que ça va relever finalement de la mission de service public, oui, voilà, de d'autres sûr, critères du RGPD. Et ça, c'est oui. Parfois les personnes n'ont pas conscience de ça, voilà.
Oui, le consentement en fait n'est pas tout nécessaire hein, quand on met en place un traitement. Hein. Je vais prendre un exemple assez simple. Dans les collectivités, on développe beaucoup la vidéoprotection, hein, les systèmes de vidéoprotection. Hein. Il n'est pas utile de demander à chaque citoyen si on peut le faire. C'est pour protéger en fait les citoyens, protéger les bâtiments, etc. Donc effectivement, en collectivité, on a beaucoup de traitements qui ne nécessitent pas de consentement de la personne.
Oui, alors on pourrait avoir tout un débat sur le fait est-ce qu'une vidéo permet de protéger ou voilà, mais ça c'est vrai que c'est des débats de fond politiques oui. Qui sont. Mais effectivement, elles se rentrent c'est un exemple où ça rentre dans une case qui n'est pas celle du consentement, mais celle voilà de la mission de service public et ensuite voilà la collectivité va le définir ensuite et c'est donc très différent effectivement.
Le consentement ça n'empêche pas aussi de bien informer hein, les usagers de la façon dont on traite leurs données hein. C'est deux choses différentes hein. Il y a le consentement puis il y a le droit à l'information et il faut bien distinguer les deux parce que c'est aussi important de bien montrer aux citoyens que on traite ces données de façon dans les règles du RGPD quoi.
Tout à fait. Alors, pendant que tu nous expliquais aussi le rôle du DPO, tu nous parlais de l'importance de cette sensibilisation et de l'accompagnement. Tout le travail que tu as fait lorsque tu étais responsable des services informatiques de migration et de formation, j'imagine que ça a dû te servir peut-être dans ton travail actuel, en termes de rapport avec les agents, de formation et de sensibilisation.
Oui, bien sûr, parce que l'informatique c'est très transversal, hein, on touche forcément tous les métiers, hein, tous les services de la collectivité, puisque tous les services de la collectivité sont informatisés. Mais le RGPD, la protection des données personnelles, c'est un peu la même chose finalement. On touche tous les métiers et ça me permet de continuer d'être vraiment avec les services, de les accompagner et je ressens un peu je retrouve en tout cas des similitudes. Entre le DSI, la direction des systèmes d'information, et puis le délégué à la protection des données.
Alors je vois le filet, il y avait cette question qui paraît moi qui était la plus importante à mes yeux quelque part. Pourquoi le logiciel libre est important du point de vue selon toi, en quoi le logiciel libre est vecteur d'une meilleure protection des données justement? Vaste question.
Ouais, bien sûr. Alors moi, c'est vrai que je fais beaucoup le lien entre le logiciel libre et les données personnelles, et je m'en sers beaucoup au quotidien. Alors, je dirais simplement que le logiciel libre, il respecte nativement l'utilisateur, sa vie privée, d'une part parce que son développement est transparent, hein, le code source est ouvert et accessible. Donc finalement, on sait exactement ce que fait le logiciel. En tout cas, si on a les compétences pour aller voir le code, on sait exactement ce que fait le logiciel. Donc on a vraiment une transparence, et c'est aussi l'idée du RGPD. RGPD, d'être transparent vis-à-vis de l'usager. Et puis le logiciel libre, son modèle économique ne s'appuie pas sur les données personnelles de l'utilisateur, hein, contrairement à certaines entreprises, hein, les GAFAM hein, notamment, hein, qui vendent nos données pour en faire un commerce. C'est pas du tout le cas pour les logiciels libres. Donc voilà pourquoi je fais vraiment le lien entre la protection des données personnelles et le logiciel libre.
Synthèse parfaite. Écoute, je suis complètement d'accord et je pense qu'on parle beaucoup du consentement, mais ce qui est peut-être le plus important, c'est en fait d'avoir des systèmes d'information loyaux auxquels on peut avoir confiance. Et après, le consentement finalement doit paraître presque secondaire par rapport à ça. À partir du moment où on peut avoir confiance dans les systèmes sur lesquels s'appuie en fait nos données, mais je ne fais que te paraphraser peut-être là.
Oui, bien sûr. Et puis pour en revenir à l'usage de ces outils, c'est vrai qu'on a de plus en plus d'outils en ligne, hein, directement accessibles sur le cloud. Donc moi, je recommande toujours aux utilisateurs d'utiliser plutôt des services plus protecteurs de la vie privée. Hein. Je vais citer quelques exemples. On utilise souvent Doodle hein, pour planifier une réunion. Bah, je leur dis plutôt d'utiliser Framadat, hein, les outils de Framasoft. On utilise Google Forms pour réaliser des sondages, alors qu'il y a Framaforms. Donc voilà. Donc moi j'essaye aussi d'orienter en fait les usages, puisque les utilisateurs s'en rendent pas forcément compte. Aujourd'hui il y a des outils assez facilement accessibles sur le net, et pourtant les conséquences en matière de données personnelles, on en a. Et donc je suis vigilant aussi sur ce terrain-là, puisque finalement aujourd'hui c'est vraiment mon cœur du sujet, quoi.
Très bien, je pense qu'on est en train de glisser vers le sujet suivant. De toi, ta démarche pour sensibiliser, que tu as peut-être pu réaliser, tu nous en diras plus par ton livre. Je te propose, avant d'en parler justement de ton livre, Une expérience libre, de nous faire une pause musicale. Nous allons donc écouter Arcane par Cloud Kicker. On se retrouve juste après. Une belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1. Thank you. Cause commune, cause-commune.fm.
Alors, nous venons d'écouter Arcane par Cloud Kicker, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. J'espère que ça vous a plu. Quand je suis tombé là-dessus, j'ai eu un petit coup de cœur. Donc, j'espère que ça vous a plu. Voilà, vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Donc, vous écoutez toujours Libre à vous sur Radio Cause Commune, donc la voix des possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Donc je suis toujours Étienne Gonu, chargé de mission affaires publiques pour l'April, et nous allons poursuivre toujours avec William Gonzalez, non plus seulement sous sa casquette de délégué à la protection des données de Fleury-les-Aubrais, mais plus généralement en tant que libriste et membre de l'April, et nous allons discuter de son livre « Une expérience libre » paru en novembre 2019. Donc William, pourquoi ce livre et de quoi parle-t-il ?
Oui, c'est un projet que j'avais dans la tête depuis plusieurs années, et j'avais vraiment envie de partager mon expérience sur ce que j'avais appris dans le domaine des logiciels libres. Alors, mon expérience professionnelle, mon expérience personnelle, j'avais vraiment envie de le partager. Je voulais pas le garder pour moi parce que ça me semblait utile aux autres. Et puis, ça donnait aussi du sens à mon histoire personnelle, puisque, comme j'explique dans le livre, le logiciel libre, pour moi, ça va au-delà de l'informatique. Ce sont des valeurs qu'on partage, le partage avec les autres, la solidarité, la liberté, au sens large. Et ce sont vraiment des valeurs qui s'inscrivent au plus profond de moi-même. Donc, j'avais vraiment cette envie de partager mon expérience avec le citoyen qui n'a pas forcément toujours connaissance quand il connaît pas ce domaine. Donc voilà, donc il parle essentiellement de logiciels libres. J'aborde aussi un chapitre sur le développement personnel. Alors ça peut paraître un peu décalé, mais pas tant que ça. C'était un point que je voulais aussi aborder dans mon livre, puisque comme tout le monde, hein, on peut rencontrer parfois des difficultés dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, et ça me semblait important d'apporter quelques solutions pour justement dépasser ces moments de doute.
Bah, tu évoques justement la fin de ton livre, alors je vais te laisser en conclusion, mais en fait on peut largement ouvrir là-dessus. Souvent tu ne parles plus d'informatique ou des enjeux de protection des privés, mais bien tu proposes une approche, un retour d'expérience, enfin, c'est comme ça que je l'ai reçu, pour reprendre un retour d'expérience pour reprendre le titre de ton livre, et j'ai trouvé justement intéressant, moi je le vois ce lien, dans du moins de la manière, parce que tu l'amènes aussi hein, à travers la lecture de ton livre, on voit qu'en fait le logiciel libre c'est avant tout une question d'émancipation, de liberté, et c'est ce rapport finalement à sa propre émancipation, c'est ce que j'ai un peu retrouvé aussi, tu partages toi comment tu ta démarche, et en fait c'est vraiment peut-être une question de démarche aussi du logiciel libre, d'apprentissage et de formation, Et tu reprends cette phrase à un moment donné de Framasoff, le chemin est long mais la voie est libre, et peut-être que ça peut assez bien résumer cette idée.
Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a cet esprit de liberté, hein, c'est ce que je retrouve dans le logiciel libre de partage. Je pense que ce sont des valeurs qu'on peut appliquer, dans sa vie personnelle. Et je pense que c'est des belles valeurs aussi à transmettre. Je suis assez de nature positive, et j'essaye toujours de voir le verre à moitié plein que à moitié vide, parce que je pense que c'est aussi en positivant les choses que les choses vont mieux. Et donc c'est vrai que c'est ce que j'aborde aussi dans mon livre, quoi, le un peu de développement personnel, hein, assez simplement finalement.
Bah, je trouve que c'est un mérite de ton livre d'être en fait très simple et très clair, et ce quand ça part de logiciel libre. Donc je pense à la fois un bon outil pour des personnes qui veulent découvrir le logiciel libre, parce que c'est dit très simplement en fait. Et puis de manière pragmatique, ça propose aussi des logiciels pour se lancer. Et je pense que c'est aussi peut-être un outil intéressant pour des personnes, par exemple des membres de l'April qui vont tenir des stands, ou les personnes qui veulent parler du logiciel libre, mais qui ont besoin peut-être d'idées de comment le formuler, de comment approcher cette sensibilisation. Et je trouve que c'est un bon outil aussi de ce point de vue-là, finalement, ton ouvrage.
Oui, bien sûr. En fait, j'ai essayé de parler à Monsieur Tout le Monde, hein, d'essayer d'être le plus pragmatique possible, le plus pédagogue possible. Finalement, parce qu'on a tendance toujours à penser que les logiciels libres, c'est plutôt réservé aux geeks, et pas du tout. Alors peut-être qu'il y a 15 ans, j'aurais pas eu ce discours-là, mais aujourd'hui, je pense qu'on peut largement utiliser ces outils. Parfois, on les utilise sans le savoir, hein. On utilise Firefox en navigateur Internet. On utilise l'encyclopédie libre Wikipédia, qui n'a pas utilisé Wikipédia. Donc, je pense que voilà, c'est important aussi de montrer que ces outils sont pas réservés qu'aux informaticiens, que voilà, tout le monde peut les utiliser assez simplement, que c'est pas des outils compliqués. On a des outils aussi simples que les outils qu'on peut retrouver chez Google, chez Microsoft. Donc voilà, c'était aussi ça l'idée d'être le plus possible pour que bah, les personnes puissent voilà, en tirer un petit peu leur avantage et puis d'aller vers ce logiciel libre.
Oui, c'est important et nous on le dit souvent aussi. Hein. Moi, je sais, du moins par exemple moi, quand il m'arrive de faire une conférence, je prends souvent soin aussi de dire que voilà, je ne suis pas informaticien, mais justement que le logiciel libre n'est pas réservé aux personnes informaticiennes, qu'en fait ça concerne tout le monde. Alors ça concerne tout le monde politiquement et tout le monde peut se saisir de ces outils-là sans avoir besoin. Il n'y a pas une barrière à l'entrée infranchissable, mais comme toute chose aussi, après il y a de la capacité voilà d'apprentissage et de progression et on peut aller plus loin, mais c'est accessible à toute personne en fait. Il suffit de se lancer et puis d'accepter parfois de certaines contraintes, mais il y a un plaisir aussi à les dépasser. Et c'est l'avantage peut-être de ces outils-là que d'aider peut-être à dépasser les premières peut-être petits obstacles et à progresser progressivement justement.
Bien sûr, complètement.
Peut-être du coup, alors toi tu es rentré dans cette démarche, donc tu nous as expliqué ce qui t'avait donné envie. Assez rapidement, le temps file, mais si tu veux bien peut-être nous dire voilà, bah, comment tu t'y es pris et quel conseil tu donnerais peut-être à une personne qui nous écouterait et qui se dirait tiens, moi aussi j'ai cette envie-là. Donc toi tu es passé par un système d'auto-édition, si
j'ai bien compris. Oui, voilà. Exactement, je suis passé par un système d'auto-édition. Alors bon, c'était une première pour moi, hein, je suis évidemment pas écrivain, et donc je voulais pas forcément passer par une maison d'édition, hein, j'avais pas cette prétention, et puis c'est souvent des démarches assez longues. Il faut d'abord trouver cette maison d'édition qui accepte. Et donc du coup je suis passé par l'auto-édition et j'ai utilisé le service de lulu.com. C'est un service gratuit. Ça permet de publier assez simplement un bouquin. Il y a beaucoup de conseils, de tutos pour accompagner dans la publication d'un livre. Ça se fait assez rapidement finalement. Et puis voilà, c'est pour ça que voilà, je suis passé sur de l'auto-édition avec le service de Lulu. On a la possibilité aussi de créer un e-book, hein, une version numérique de son livre que j'ai pas encore fait. Et puis il y a la possibilité de vendre son livre sur d'autres sites sans problème, même sur les sites comme Amazon. Voilà. Après sur la création de la couverture du livre, je me suis fait aider. Je connaissais un ami qui était infographiste et donc du coup qui a pu réaliser cette couverture. Il a utilisé évidemment des logiciels libres, hein, c'était un peu sa contrainte, c'est ce que je lui avais donné comme contrainte. Donc voilà, et puis dans l'écriture du livre, je me suis fait aussi aider par un écrivain public, hein, qui m'a aidé dans la rédaction. Je suis pas spécialiste en la matière, même si j'ai un certain goût pour l'écriture. Donc voilà, je me suis fait aider et l'auto-édition, ça permet de publier assez rapidement finalement un bouquin assez simplement sans être un expert en la matière.
Alors là, on arrive sur la fin. Combien de temps du coup ça t'a pris pour écrire quand tu t'es lancé dans le projet et puis la parution fin 2019?
Environ un an et demi, hein, puisque du coup j'écrivais quand j'avais un peu de temps, hein, puisque bon, entre la vie professionnelle, la vie personnelle, ça prend quand même beaucoup de temps, hein, pour poser ses idées sur papier. Donc à peu près un an et demi au moment où j'ai décidé d'écrire ce livre, et puis où il a été publié ensuite en novembre 2019.
Ok, alors Marie-Odile nous dit belle couverture, joyeuse et lumineuse. Donc tu vois, le partage tes choix graphiques.
Ah bah, je la remercie.
Très sympa.
Je la remercie.
Alors, et puis bien sûr, on invite plutôt les gens à ne pas commander sur Amazon, mais plutôt se tourner vers leur libraire de quartier. William, sauf si tu as un dernier mot que tu voudrais partager avec nous, sinon je te propose de nous arrêter là. Mais si tu as un dernier mot, tu as une dernière minute.
D'accord. Non, bah juste remercier l'April hein, pour cette invitation. Encore une fois, j'ai pas l'habitude d'intervenir en radio. J'espère que voilà, j'ai été à la hauteur. Et puis voilà, j'espère avoir pu apporter un éclairage du logiciel libre, notamment dans les collectivités, encourager les collectivités à aller vers le logiciel libre. Et puis après, bah, voilà, je vous invite aussi à partager le livre que j'ai écrit, et j'espère que ça aidera aussi le citoyen à s'engager vers une nouvelle voie.
Parfait. J'ai des retours très positifs là sur le salon web de l'April, sur le salon libre de Libre à Toi. Voilà. Donc les gens t'ont trouvé très clair. Et moi j'ai été ravi de partager cette première émission donc avec toi. Je te souhaite une très bonne fin de journée, William, et merci encore de ta participation.
Merci à tous. Au revoir.
Au revoir, William. Alors nous approchons de la fin de l'émission. Je vous proposais de faire quelques annonces. Alors sachez que voilà que l'édition 2020 de Libre Planète, donc un événement libriste très important qui se déroule à Boston chaque année et organisé par la Fondation pour le logiciel libre, donc là qui s'est déroulé les 14 et 15 mars, a été entièrement réalisé en ligne du fait voilà de la période de confinement actuel et de la crise sanitaire, et l'expérience semble avoir été un franc succès. Voilà, la Fondation, donc la FSF, Free Software Foundation, Fondation pour le logiciel libre, en tire un bilan sur son site, donc en anglais pour le moment, la référence est sur le site de l'April. À cette occasion, il y a eu les Free Software Awards de 2019. Et donc, on félicite les lauréats Jim Meyering et Clarissa Lima-Borge. Pareil, voilà, les informations, les détails seront en lien sur le site de l'April. Alors, je le mentionnais suite à la chronique de Mario Dill qui nous parlait des collectifs des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Je me suis lancé à l'impro là-dessus, je m'en sors bien. Donc, le chaton de l'April, Chapril, qui a ouvert un nouveau service pour faire des conférences audio basées sur Mumble, justement, le logiciel que nous utilisons pour enregistrer l'émission. Et donc voilà, ouvert au public. Donc vous pourrez trouver le lien sur april.org. Nous avons réalisé une playlist par ailleurs de plus de 8 heures à partir des différents morceaux de musique libre diffusés dans Libre à vous. C'est la playlist Libre chez vous. Et elle est disponible également donc sur le site de l'April. Et nous sommes en train de préparer une émission spéciale dédiée aux musiques libres, justement. On tiendra un formé de tout cela. L'idée, voilà, c'est de parler autour de ces musiques, de les commenter, d'écouter ça tous ensemble. Toutes les références donc sont sur la page dédiée à l'April. Notre émission se termine. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à l'émission. Mario Dill, William Gonzalez, donc aux manettes de la régie, un autre William de la radio Cause Commune. Merci également à Sylvain Kunzmann, bénévole à l'April, à Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio, qui s'occupe de la post-production des podcasts. Merci également à Quentin Gibault, bénévole de l'April lui aussi, qui découpe les podcasts complets en podcasts individuels par sujet. Et enfin, j'en profite pour remercier Frédéric Couchet, le délégué général de l'April, hein, qui est le cœur et les poumons de Libre à vous. Et c'était un plaisir de le remplacer, mais du moins de partager l'émission, l'animation de Libre à vous avec. Mais voilà, donc je vais passer à la suite parce que je m'embrouille. Donc vous retrouverez notre site web april.org, toutes les références utiles, comme je vous l'ai souvent dit, ainsi que sur le site radiocausecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour nous indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse libreavous@april.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler autour de vous le plus possible et à faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. Plein de très belles émissions. Donc la prochaine émission aura lieu en direct le 7 avril 2020 à 15h30. Nous prendrons des nouvelles de Framasoft avec Angie Gaudion. Nous aurons également le créateur de Jitsi, un logiciel libre de visioconférence, et plein d'autres invités. Donc nous vous souhaitons de passer une très belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 7 avril, et d'ici là, prenez soin les uns et les unes des autres.